On est dans Apocalypse, chapitre 20. Ce n'est pas un chapitre qu'on prêche souvent. Vous allez sur le site de l'Église, vous allez trouver une prédication il y a de cela 13 ans que j'ai adressée sur le sujet. On va regarder le chapitre 20 aujourd'hui et dimanche prochain en deux parties parce que je ne voulais pas qu'on se bouscule à regarder un sujet qu'on ne voit pas souvent, pour lequel la Bible consacre un chapitre entier et qui suscite aussi beaucoup de débats, de discussions et qui nous instruit aussi beaucoup. Donc, on va le faire en deux parties pour vraiment digérer. Et aujourd'hui, on va toucher deux aspects particulièrement, OK? On va toucher cette notion-là du millénium. C'est quoi ça, le millénium? Et les débats qui existent sur la compréhension des chrétiens sur le millénium. Et deuxièmement, ce personnage qu'on va regarder davantage, qui nous est décrit dans les premiers versets, celui du diable, celui de Satan, et qu'on doit prendre le temps de regarder parce qu'il est bien réel. Et dans ce monde qui veut banaliser Satan, qui veut banaliser ses idées de démons, qui veut rire de tout ça et trouver ça niaiseux de croire de telles choses, c'est important de regarder ce que la Bible a à dire sur le sujet et de surtout pas ne banaliser un tel sujet. La semaine dernière, vous savez, on a regardé la guerre. Lorsque Jésus-Christ revient sur terre, les gens vont voir Jésus-Christ venir et malgré qu'ils voient Jésus-Christ venir du ciel avec son armée, une armée terrestre va vouloir se tenir tête au roi des rois. On a vu la folie humaine qui va être jugée lors du retour du Seigneur. Une guerre à venir, n'est-ce pas? Mais il y a bien et bien une guerre actuelle aussi. Et vous savez, dans une guerre, on use de stratégies, de toutes sortes de manières, pour affaiblir l'ennemi et gagner. Et si vous regardez, par exemple, toute la stratégie utilisée dans les médias à la guerre qu'on voit de l'autre côté de l'océan entre l'Ukraine et vous allez remarquer rapidement, on nous balance un paquet d'informations, n'est-ce pas? Vous avez quoi lire dans les journaux, n'est-ce pas? Mais vous avez d'affaire à user de discernement, puis savoir lire entre les lignes. Parce qu'évidemment, dans l'art de la guerre, qu'est-ce qu'on fait? On balance beaucoup d'informations, mais de l'information sélective. Et on déclare quelque chose, mais on ne nous déclare pas une autre information qui, sans cette information, devient finalement une demi-vérité. Et comment on appelle une demi-vérité? Un mensonge. Évidemment, le système communiste a toujours utilisé le mensonge d'une manière très particulière parce que c'est un système athée. Et on voit justement cette technique utilisée, et non seulement par les athées, mais même en termes de stratégie, tu ne donnes pas toutes les informations à l'ennemi, n'est-ce pas? Tu t'arranges pour minimiser l'impact là-bas, maximiser là-bas pour attirer l'attention sur un autre front. On donne des informations sur le nombre de personnes qui meurent, d'autres ne le donnent pas. On espère que ça va donner une impression d'eux sur l'ennemi. On joue avec les informations pour manipuler les informations dans le but de gagner la guerre. Et il n'y a pas de pitié. Il n'y a vraiment pas de pitié. Ah, il y a des belles conventions de Genève. Dans les livres, en théorie. On parle d'amener en cours les crimes de guerre, mais très peu de cela va vraiment atterrir à des faits et certaines des personnes qui vont être utilisées pour ces mascarades vont être que des exemples, mais qui camouflent bien d'autres histoires cachées, n'est-ce pas? Faut pas se leurrer, hein? Faut être bien réaliste et terre à terre. On nous donne des brides d'informations. Un jour, le gouvernement iranien nous dit « Oh non, on n'a pas vendu de drones! » Puis un jour, on dit « Oui, on a vendu, mais avant! » Mais on sait très bien qu'il y a des informations qui nous manquent. Parce qu'on essaie de garder la face, on essaie de garder les relations, on a une stratégie. Et là, c'est les alliances, n'est-ce pas? C'est tout un jeu d'hypocrisie, de mensonges, de manipulation des faits pour en arriver à gagner impitoyablement contre un ennemi. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. De l'argent, n'est-ce pas? Le contrôle, le pouvoir, la soif du pouvoir qui est là. Et une des stratégies, c'est celle de minimiser certaines affaires importantes. On va minimiser le nombre d'effectifs pour donner de la confiance de l'autre côté. On va minimiser certaines informations de dangerosité sur toutes sortes d'informations pour que les autres personnes prennent ça à la légère et qu'à un moment donné, bang, on les pogne par surprise. On va minimiser le nombre de personnes qu'il y a là, on va faire à croire qu'ils sont là, puis là, ils vont plus aller là, puis là, ben, on va y frapper, puis là, on va vraiment faire mal à un groupe, puis là, stratégiquement, avoir une victoire. Vous savez, l'ennemi fait la même chose actuellement. En Amérique du Nord, le combat spirituel est un peu différent de celui dans d'autres pays. Et le combat spirituel ici, envers la population nord-américaine, c'est de banaliser. De banaliser la spiritualité. Banaliser qu'il y a un réel combat entre le bien et le mal. Banaliser Satan. T'es bien niaiseuse. Tu crois ça, toi, Satan, le diable, ces niaiseries-là? C'est juste des manipulations religieuses de l'Église, ça. J'ai entendu des commentaires comme ça? T'es quasiment gêné. Non, ça va te parler de Jésus, mais de croire que le diable et Satan, ça existe. T'es vraiment niaiseux, hein? T'es un peu simpliste. Hein? T'as vraiment besoin de la religion comme béquille, toi. Ça te fait du bien, écoute. Tant mieux pour toi, tu sais, écoute. Pas de jugement, là? Ben oui, pas de jugement. Et pourquoi on fait ça? L'ennemi sait très bien qu'il y a des adeptes qui veulent le suivre, qui connaissent, là. Mais la majorité, là, ils veulent pas entendre parler de tout ça, puis on veut minimiser cette réalité-là, de cette guerre spirituelle. Et qu'est-ce qui arrive quand tu as un ennemi puis que tu n'es pas bien informé? Lui, il est bien présent, tu vas perdre. En minimisant l'importance stratégique de certaines informations. Et c'est ce que notre société fait, rit de croire de telles choses. Et pourtant, vous savez, lorsqu'on va lire tantôt dans quelques versets, on va parler de Satan, le diable, il va nous décrire de différents angles. Mais dans le Nouveau Testament, là, attention, là, 38 fois on voit le mot diable, 36 fois le mot Satan. Là, je vous épargne ici les allusions au serpent, au prince de ce monde, et à d'autres termes utilisés. Plus d'une centaine de fois, on parle bien et bien d'un ennemi acharné sans pitié qui est là. Et non seulement ça, on commence le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qu'on lit rapidement au début du ministère de Jésus? Il se fait attaquer par qui? 4 fois le mot diable est utilisé dans Matthieu, 5 fois avec Satan dans le récit de Luc, chapitre 4. Les deux récits qui nous racontent cette confrontation où ce que Jésus va être attaqué quand il est vulnérable. Il ne suit pas les règles de la guerre. Quand ça fait 40 jours que tu jeûnes, tu es vulnérable, c'est là qu'il vient te frapper. Lui, les coups en dessous de la ceinture, il n'y a pas de problème là. Les poignards dans le dos, il n'y a pas de problème là. C'est pas important, l'important c'est de gagner. C'est de s'attaquer aux enfants de Dieu, de diminuer la prédication de l'Évangile, de diminuer le témoignage des enfants de Dieu et l'efficacité de leur rayonnement pour Christ dans la communauté. Il y a une guerre spirituelle, mais nous, dans notre confort nord-américain, discret, occupé, pris dans l'échafaudage des activités, des rendez-vous de bienséance et de responsabilité à payer nos assurances, à être protégés un peu partout, on est un petit peu là, anesthésié de cette réalité-là. Et ce matin, c'est un des objectifs de nous rappeler ce combat-là et de terminer ce matin avec un concret. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait face à ce combat-là? Là, on va parler d'un combat dans l'avenir avec Satan qui va être enfermé pendant un certain temps. Mais là, il n'est pas enfermé. Qu'est-ce qu'on fait avec son membre? On va atterrir là en terminant ce matin. On va toucher deux éléments, cette idée de millénium. Soyez patients si au début vous trouvez que ça fait un peu prof d'école. C'est pas mon intention, mais il faut parler une dizaine de minutes, un peu le comprendre. C'est quoi le millénium? Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas familiers avec ça, comprendre des fois les termes qui sont utilisés, définir un peu. Et après ça, on va atterrir davantage dans les versets qu'on va regarder ensemble. Je vous lis quelques versets, on va prier le Seigneur et lui demander de nous conduire dans ce temps de réflexion ce matin. On est dans le chapitre 20, les versets 1, et je vais vous lire le verset 1 à 6. La semaine prochaine, on va couvrir vraiment le reste du chapitre, mais ce matin, on va couvrir seulement les trois premiers versets en réalité. Alors donc, après le retour du Seigneur, je vis tout à coup un ange qui descendait du ciel. Il avait à la main les clés, ou la clé, donc le contrôle sur l'abîme, un endroit distingué ici de l'enfer, et une lourde chaîne. Et il s'empara du dragon, celui qu'on appelle le grand dragon, il y a juste quelques chapitres, l'antique serpent, donc on nous dit qu'il est l'antique serpent, qui est le diable et Satan, et il l'enchaîna pendant 1000 ans. Il le jeta ou le précipita dans l'abîme, qu'il ferma et scella sur lui, pour qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que l'accomplissement des 1000 ans. Il faut après cela qu'il soit relâché pour un peu de temps, mais on va y revenir un peu plus loin. Et je vis une autre chose, des trônes. Et ceux qui vinrent y siéger, il fut donné d'exercer le jugement. Donc, on comprend ici, c'est les croyants qui ont été récompensés, ceux qu'on a vus plutôt récompensés, des croyants qui avaient été martyrisés, qui sont dans les cieux avec le Seigneur et qui vont juger sur les nations. Et il fut donné d'exercer le jugement. Et je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités. Donc, ceux dans la tribulation, les martyrs de la tribulation, à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, donc pendant la tribulation, ni son image, et n'avaient pas reçu la marque dans le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie. Et ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Et les autres morts ne revinrent pas à la vie avant l'accomplissement des 1000 ans. Fait qu'il y a une première résurrection, puis là, il y a une deuxième. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas d'emprise. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, on apprend qu'il y a une première, une seconde résurrection. On apprend qu'il y a une première, il y a une deuxième mort. Des notions assez intéressantes qu'on va devoir discuter, mais plus amplement la semaine prochaine. Prions ensemble. Seigneur, on vient de lire ta parole et on veut comprendre, Seigneur, ce chapitre. Accorde-nous ta sagesse. Aide-moi, Seigneur, à communiquer clairement. Et Seigneur, applique ta parole dans nos vies. On a besoin, Seigneur, que cette parole ne puisse pas juste remplir notre connaissance. C'est pas ça vraiment connaître, Seigneur. C'est que cette connaissance descende dans le cœur, qu'elle change nos attitudes, qu'elle transforme ma manière de te regarder, de voir mon environnement autour de nous, qu'elle enlève ce côté anesthésié, que crée ce confort nord-américain, Seigneur, et m'amener à pratiquer ce que je comprends de toi dans mon quotidien. Quel défi pour nous, Seigneur, de pas juste voir dans le miroir, mais de mettre en pratique. Quelle folie, Seigneur, de regarder le miroir et de se voir échevelé, sale dans le visage et se retourner de bord et de continuer. Seigneur, ta parole, qu'elle puisse s'appliquer dans nos vies, qu'on puisse voir et qu'on puisse, Seigneur, vivre des changements pour la mettre en pratique dans nos vies. Qu'on ne puisse pas être de simples fous devant un miroir qui ne réagisse pas à une connaissance qui ne doit pas et ne peut pas nous laisser indifférents. Seigneur, nos offrandes ont été accumulées ce matin. On aimerait te prier aussi pour les offrandes qui sont prises discrètement derrière. Seigneur, bénis les finances de l'Église, ces dons qui te sont donnés, Seigneur, pour ton Église, pour ton corps, pour le gérer d'une façon à ce que ça puisse contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre. Accorde-nous sagesse. Apporte-nous, Seigneur, reconnaissance dans nos cœurs et bénis cette assemblée et ses dons pour toi parce qu'elle t'aime. Et nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus, d'une seule voix. Amen. Ainsi soit-il. Le millénium. Je vais essayer de suivre mes notes pour bien avancer méthodiquement dans ce qu'on a à discuter ce matin, parce qu'on peut facilement s'égarer dans toutes sortes de directions. Alors, on vient de faire la lecture de ces quelques versets. Je sais que pour beaucoup, ce ne sont pas des versets que vous êtes familiers avec, peut-être pas non plus eu d'enseignement dans le passé. Donc, je vais prendre le temps de définir et vous aider un peu à comprendre. On vient de terminer ces trois cycles de jugements qui sont tombés du ciel, c'est-à-dire qu'il y avait les sceaux, sept sceaux. Au septième sceau, il y avait une série de trompettes qui ont sonné. Et rendu à la septième trompette, une série de coupes ont été versées, une série de sept coupes versées sur la terre de jugement. Et tout ça progressivement à travers une période de 7 ans et demi sur terre, où la terre était vraiment labouré. Plus de la moitié de la population est morte et dans les jugements divers qui sont clairement identifiés comme venant de Dieu. Et là, tout à coup, à la fin, le Seigneur Jésus-Christ est revenu. Et là, maintenant, il vient instaurer son règne. Et on apprend à propos de ce 1000 ans sur terre, répété à plusieurs occasions dans le texte, en fait 6 fois, et que là, tout à coup, Satan est enchaîné dès les débuts de cette période de temps-là. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer particulièrement ce matin. Maintenant, le millénium, est-il réel ou symbolique? Correspond-il à une époque actuelle ou à une époque future? Si vous êtes moindrement grandi dans l'Église catholique, vous avez vécu avec cette théologie qu'on est dans le millénium, que c'est symbolique et on va appeler ces gens-là qui croient dans le millénium comme étant symbolique des 1000 ans. C'est-à-dire que le millénium n'est pas vraiment 1000 ans, c'est une période symbolique dans laquelle on vit présentement et dans laquelle Satan serait enchaîné. Je vous laisse vivre le doute de cette déclaration. Effectivement. Définition de terme un peu pour nous aider à situer aussi sur l'idéologie ou les concepts du millénium. Le dispensationalisme, j'expliquais ça justement à ma fille. Ma fille prend un cours de doctrine, étudie le dispensationalisme, puis on parlait de ça en s'en allant. Quand vous entendez le mot dispensationalisme, là, pensez à dispenser, gérer. C'est le mot gérer et qui se retrouve peu de fois, mais quelques fois dans le Nouveau Testament. C'est l'idée qu'on conçoit qu'il y a des périodes de temps où Dieu a géré avec l'être humain de différentes manières. Et des fois, ceux qui croient, comme nous, comme Église, sur un millénium littéral dans l'avenir, sont étiquetés du nom de dispensationalistes. C'est des étiquettes, vous savez, très limitées. Ils ont leurs pour et leurs faiblesses. Moi, j'aime pas ça, les étiquettes. Fait que j'aime ça les définir. Et en fait, quand tous les croyants, en fait, croient à des dispensations, c'est-à-dire des périodes où ce que Dieu a géré avec l'être humain de telle, telle façon, selon ce qu'il leur avait révélé. Avec Abraham, il gère avec des promesses qu'il a données à Abraham. Il dit à Abraham, selon la foi qu'il exprime, aux promesses qu'il a données. Il va le juger vis-à-vis de ça. Quand vient la loi, il y a une nouvelle révélation, il va dispenser avec lui différemment. Un peu comme nous, on gère avec nos enfants sous différentes dispensations, selon leur âge. De 0 à 3 ans, on dispense d'une manière. Puis là, quand ils arrivent à l'école, quand ils sont à l'école, on dispense d'une autre manière. Quand ils sont adolescents, on dispense avec eux, on gère avec eux d'une différente manière parce qu'ils ont une nouvelle connaissance, une nouvelle autonomie. Et quand ils deviennent adultes, on doit dispenser d'une autre manière. Vous comprenez? On gère différemment. Et Dieu fait ça avec nous. Différentes époques, différentes révélations, il gère différemment. Et des fois, on entend, ah, c'est la dispensation de la loi, et là, maintenant, c'est la dispensation de la grâce, comme si la grâce, elle n'existait pas pendant qu'il y avait la période de la loi. Vous savez, ces étiquettes-là ont leurs limites. La grâce a toujours été là. La grâce vient d'un Dieu gracieux. Amen. Et ce Dieu gracieux-là, il est là depuis la création. Il a été généreux dès la création, nous créer parfaitement, avec un arbre parfait pour nous donner la vie éternelle. Nous, on a fait des choix de vouloir être autonome et de pécher, de douter contre Dieu. Mais Dieu a toujours été gracieux. Donc, ces étiquettes, vous savez, sont un peu stéréotypées, ont leurs limitations. C'est des outils comme n'importe quoi. Il n'y a pas une carte parfaite pour voyager à travers une ville. Il n'y a rien comme la connaître personnellement, cette ville-là. Et une map à ses limites, donc. Donc, cette idée qu'il y a des interprétations de périodes de temps, on appelle ça des dispensationalistes, et à l'intérieur de ces gens-là, il y a des gens qui croient au retour du Seigneur avant une période de tribulation, qu'on appelle des pré-tribes. Il y a des gens qui croient que Jésus va revenir au milieu de la tribulation. On appelle ça des mid-tribes, très original. Hein? Et on appelle ça des post-tribes, ceux qui croient qu'ils vont venir à la fin de la tribulation, ou des pré-colères, juste avant le moment intense de colère à la fin de la tribulation. Vous voyez le portrait ici, quand est-ce que le Seigneur va revenir? Bien, avant la millénium. Puis dans la tribulation, est-ce qu'il revient avant, au milieu, après? Il y a différentes opinions dans le monde évangélique. Et c'est ces termes-là que vous avez pour vous aider à vous situer quand on parle d'être pré-mille, en mille. Alors, c'est ces notions-là qu'on parle du retour du Seigneur avant le millénium et le retour du Seigneur précisément avant la tribulation ou après, au milieu, etc. Ça va jusqu'ici? J'ai entendu un petit grognement. Mais un grognement, c'est comme rassurant. Tu sais, tu te dis, pas sûr ce que ça voulait dire, ce grognement-là. Vous me suivez un peu, là? Tu sais, si vous ne comprenez pas, vous me regardez, vous faites comme ça, je comprends, là. Je me perds, Joël. Je vais essayer de rendre ça le plus simple possible pour que vous compreniez, OK? Donnez-moi juste un 5-10 minutes pour vous expliquer ça, après ça, on va avancer. Là. Soyez patient avec moi si vous l'expliquez quand même. Donc, prémillénarisme, le retour du Seigneur Jésus, prédéterminé avant cette période de 1000 ans. Et prémillénarisme historique qu'on appelle, croit au retour de Jésus, plus vers la fin, et que certains d'entre eux croient que c'est aussi, comme les catholiques, c'est symbolique, cette période-là. Okay? Note, les interprétations prémillénaristes sont considérées comme étant les plus littérales ou les plus historiques, c'est-à-dire les plus historiques face aux premiers croyants des 2-3 premiers siècles, qui l'interprétaient de cette façon-là, d'une manière assez littérale. C'est plus vers les années 300, 400, avec Origène, Augustin, ces hommes qui sont appelés des saints, qui interprétaient la Bible, des hommes comme vous et moi, qui ont augmenter plutôt une approche très symbolique, de voir plus des analogies, des images, et qui ont tranquillement miné cette vision littérale de l'Apocalypse étant futuriste. Définition ici. En millénariste, c'est la conception en mille, c'est-à-dire qui ne croit pas en mille contre le millénium ou qu'on est dans le millénium. J'ai un de mes amis qui est René Fré, définit beaucoup la position en mille. Et lui, elle appelle ça en mille, E-N, plutôt qu'il n'y a pas de millénium. C'est qu'on est dedans et que ce n'est pas un 1000 ans littéral, mais une longue période de temps. C'est ça que ça voudrait dire, 1000 ans, une longue période indéfinie. Bon, c'est une manière de le voir. Mentionné dans ce chapitre, elle estime que ce millénium a déjà débuté. La millénariste considère que le règne de Christ au cours du millénium est spirituel. et qu'à la fin de l'âge de l'Église, elle aura lieu à la seconde venue de Christ pour le jugement dernier et pour établir le règne physique permanent. Ici, je vous lis un exemple d'un commentateur qui est en Europe, qui écrit beaucoup de livres, quelques livres, M. Prigent, un homme qui étudie beaucoup le grec, un protestant large. Et voici leur approche un peu quand il nous regarde, nous, comme évangéliques qui croyons littéralement à un millénium. Il dit, « Milan désigne symboliquement, dans le fond, de l'ère présente, époque inaugurée par la venue de Christ. Reste alors à comprendre le symbolisme qui explique pourquoi l'auteur fait recours à un chiffre comme 1000 pour caractériser ce temps présent. C'est à mon sens, et là, souligné ici, c'est à mon sens, c'est juste son opinion, là, OK? Toutes sortes d'opinions. Parce qu'il définit la communion au Christ comme la réparation de la chute. OK, tu as toute mon attention. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ici comme la réparation de la chute? Bien, en fait, ici, c'est que 1000 ans, c'est la durée traditionnelle dans le séjour du paradis. Ah, ça m'avait vraiment passé en dessous du nez. Je n'étais pas au courant qu'il y avait eu 1000 ans. Là, c'est une information extérieure. Vous voyez, on prend une information qui est une spéculation, une tradition. On dit, ah, c'était, il y a eu 1000 ans. Mais qui a dit qu'il y avait 1000 ans? Qui est au courant s'il y a eu 1000 ans? Où c'est écrit dans la Bible? Bien, nulle part, n'est-ce pas? Fait que là, il y a, à mon sens, puis il y a un chiffre qu'on explique par un endroit qu'on n'est pas au courant d'où ce que ça vient. Alors, on est assez fragile comme spéculation ici. Et là, on dit le principe de la principale objection avancée contre l'interprétation actualisante, ou la manière dont il définit la position futuriste d'un millénium littéral. Il va dire elle est pratiquement restée la même depuis la discussion du IIIe siècle. C'est-à-dire les arguments sont pas mal restés les mêmes depuis 1800 ans à peu près, au niveau de l'argumentaire pour les deux positions. Voici ce qu'il donne comme exemple. Il y a Hippolyte et Gaius, deux hommes qui discutaient du sujet et dont on voit les écrits qui ont été préservés au IIe siècle avant Jésus-Christ. Celui-ci argumente de Matthieu, chapitre 12, verset 29, que, vous savez, l'homme fort qui doit saisir l'homme fort de la maison pour pouvoir rentrer dans la maison, alors que c'est une image ici du Seigneur qui doit saisir, c'est l'homme fort qui saisit son adversaire pour le limiter. Il n'y a aucun lien contextuel qui a rapport avec le millénium puis l'avenir. C'est dans la vie de Jésus qu'il parle cette image-là. C'est une parabole prise hors contexte, mais qu'on utilise pour dire, ah, vous voyez, dans l'Apocalypse, chapitre 20, c'est ça qui se passe. C'est l'homme fort, Seigneur Jésus, qui va maintenant contrôler et ligoter Satan. Jésus est celui qui lie le fort qui est, en fait, qui est Satan, qui est lié. Pour affirmer que la prophétie d'Apocalypse chapitre 20 est accomplie, Hippolyte, qui pense un peu comme nous, lui répond par une série d'arguments qu'on peut, sans trop faire violence, résumer comme l'objection unique. Ce n'est pas vrai, puisque nous constatons aujourd'hui que Satan n'est pas lié. Grosso modo, tu sais, c'est pas super original, mais à la fin de compte, c'est juste ça. Il considère l'interprétation plus littérale, donc pré-mille dispensationaliste, selon les définitions de certains, sans doute aussi la plus ancienne, avec Justin, Papias, ces hommes qui ont vécu après les disciples, après Jean, donc pendant le premier siècle, Irénée a vécu en l'an 170, est allé évangéliser les Gaulois, la vraie histoire des Gaulois, pas Astérix et Obélix, là, okay? C'est pas pareil, là. Et il a sacrifié sa vie à évangéliser ce peuple. Il ajoute, à son sens, que la condition d'une saine interprétation, on la trouvera certainement pas, c'est ces fantaisistes échevelés des exégètes de cette opinion qui est la nôtre. Alors, vous voyez ici une opinion de comment on est vu de l'extérieur si on croit à un futur littéraliste dans un milieu protestant large, plus libéral, et donc et plus aussi porté vers un académique. Le millénium se situe dans le futur, après l'événement de notre Seigneur et de la première résurrection. Cela arrive après 7 ans de tribulation, l'enlèvement ayant eu lieu avant cela de l'Église. C'est l'interprétation favorisée par des évangéliques comme les Églises où on appartient, baptistes, pentecôtistes, les assemblées des frères. C'est l'interprétation qui a été beaucoup aussi repopularisée en quelque sorte par les écrits de M. Ryrie et Darby, ceux qui ont une Bible, Scofield aussi. Alors, c'est des écrits qui ont repopularisé de prendre la Bible telle qu'elle est, à ce qu'on dit en face value, de prendre ce qu'elle nous dit telle qu'elle, à moins qu'elle nous donne des informations, des mots, pour montrer que c'est des symboles, des images, comme le mot « comme », qui peut paraître parfois dans le livre. Donc, voilà les grandes lignes. Pourquoi favoriser une interprétation littérale? Bien, plusieurs des prophètes de l'Ancien Testament nous ont donné des prophéties un peu partout, différents prophètes, d'un monde à venir qui correspond justement à ce millénium-là, où est-ce que la nature va changer, où est-ce que même un lion et l'agneau peuvent être ensemble. Ce n'est pas arrivé encore de notre époque, cela. Là. On nous parle d'une époque où on va vivre plus longtemps, d'une époque où les gens vont aller un peu partout du monde, vont venir à Jérusalem adorer le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. D'un règne littéral sur terre. Et Zacharie, un des derniers prophètes, évidemment, le mentionne dans son dernier chapitre de manière longue et en large. Le chapitre 14 de Zacharie, c'est tout qu'un chapitre qui nous décrit justement ce monde de la fin où il y aura une période de temps, le Seigneur va être sur terre, littéralement, à Jérusalem. Chose qu'on n'a pas vue encore, évidemment, qui ne correspond pas non plus avec la venue de Jésus et ce qu'on voit de Jésus lorsqu'il est venu pour la première fois. Non seulement ça, mais l'Église primitive, son témoignage à l'égard du millénium, c'est que les gens des deux premiers siècles prenaient cette interprétation-là littéralement comme elle était. C'est après ça que ça s'est tranquillement détérioré, qu'on a été vers des symbolismes au 3e, 4e siècle, et que c'est devenu l'approche aussi de l'Église catholique du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, et qui a influencé les protestants les plus anciens, comme les anglicains, les premiers presbytériens, etc., qui ont eu cette approche-là également dans bien les églises réformées. Et Apocalypse, chapitre 20, vous savez, mentionne ce chiffre 6 fois. Et jamais, contrairement à certaines images qui vont dire « c'était comme ceci ou comme cela », jamais les chiffres de l'Apocalypse sont décrits comme. C'était comme 1000 ans. C'était comme 3 ans et demi. C'était comme... Non, jamais les chiffres sont galvaudés avec des images. Ils sont utilisés d'une manière très littérale, très simple, où ce que tout le monde peut comprendre, des chiffres qui ont une logique et une correspondance de temps à travers tout le livre, de manière constante. Et on va y revenir. Et donc, c'est pour ça qu'on croit à une interprétation plus littérale. Pourquoi certains en mille vont penser différemment? Bien, ils vont regarder l'Apocalypse d'une manière différente. Ils vont voir plutôt que les trois jugements de sept qu'on a vus tantôt, vous savez, les trompettes suivies des coupes, mais que ça, c'est comme des cycles qui recommencent, qui s'intensifient. C'est la même chose. Et ça reflète, dans le fond, des choses qui se sont passées à travers toute l'histoire de l'Église. Et donc, on peut lire l'Apocalypse et voir des rois qui ont dominé un derrière l'autre. Et là, interpréter que c'est tel roi, puis ça, c'était tel dirigeant de telle époque. Et là, d'interpréter sans qu'on ait tout ça bien défini clairement. Et là, c'est très aléatoire. Il y a une grande latitude d'interprétation dans l'histoire des 2000 dernières années. Comment on va interpréter ces symboles-là à l'histoire des 2000 dernières années? Et là, vous pouvez lire les commentaires. Et là, les opinions sont très variées de toutes sortes de choses. Parce qu'on ne le voit pas comme dans le futur. Et eux, ils ont cette manière de voir cyclique qui, pour eux, semble logique lorsqu'ils lisent cette partie des Écritures. Satan est lié pour l'instant afin de ne pas empêcher l'avancement de l'Évangile. Donc, pour eux, l'avancement de l'Évangile se fait présentement dans le monde parce que Satan est lié. Si Satan n'était pas lié, il n'y aurait même pas de profession de foi, il n'y aurait même pas d'avancement de traduction de la Bible, etc. C'est parce qu'il est lié qu'il y a une progression de l'Évangile. Pourtant, on va le voir tantôt, le langage de Paul, de Pierre, de Jean, c'est pas ça qu'ils nous disent sur le ministère, le mauvais ministère que Satan a dans ce monde. Bien le contraire. Donc, des gros doutes sur cette légitimité-là, je vais vous l'expliquer un peu plus loin. Milan n'est pas qu'une expression figurative faisant référence à l'âge actuel. Alors, on va expliquer que 10 fois 10 fois 10, c'est comme si l'expression d'une plénitude de communion avec Dieu par le fait qu'il est sur terre. C'est un symbole où ça représente, comme j'ai mentionné tantôt, les 1000 ans que Dieu veut restaurer du début du monde quand on était dans le jardin pendant 1000 ans, alors qu'on n'a aucune espèce d'idée si c'est vrai ou c'est pas vrai, puis d'où se vient ce genre de chiffres-là. Et finalement, pour eux, la première résurrection qu'on a lu tantôt, les versets 4, 5 et 6, pour eux, c'est figuratif. C'est pas une vraie résurrection des morts. Ça décrit plutôt une résurrection spirituelle. Lorsqu'on vit la conversion, ces versets-là décrivraient plutôt la conversion, les versets 4, 5, 6, et non une résurrection littérale, même si les mêmes mots sont utilisés par Jésus, par Jean, pour décrire la résurrection, une vraie résurrection, mais on va dire ici qu'ils sont symboliques. Je me rappelle, j'avais un professeur de grec qui m'a enseigné 2 ans de grec, 12 crédits. Je déteste le grec, mais j'y ai travaillé fort pour pas que ça s'est gaspillé, fait que je le maintiens, je le lis régulièrement. Et tout le livre d'Apocalypse, je l'enseigne à partir du grec. Et ce professeur-là était un en mille mordu, René Frey, un frère que j'aime beaucoup, un homme qui aime évangéliser, qui m'a appris aussi à avoir du respect pour des hommes qui ont une opinion différente de la mienne. Un homme qui a une belle relation avec Dieu, un homme qui contribue à l'évangélisation beaucoup. On a passé beaucoup de temps ensemble et un jour, il nous faisait justement traduire, et c'était le genre d'homme qui était pour notre cours, c'est il y a 22 ans de ça. Ils ont dit, là, on va traduire Apocalypse chapitre 20 en grec. du grec au français. Il fallait arriver préparé. Et là, on traduisait chaque... Et là, lui, il passait son temps à expliquer puis de débattre. C'était lui, il donnait un cours de grec, il allait débattre de la position en mille, même dans un cours de grec, dans tout ce qu'il faisait, naturellement convaincu de sa position. Et donc, j'ai appris le grec avec un professeur en mille, tout aussi comme j'ai appris aussi l'hébreu d'un professeur en mille. Vous savez ce que ça a fait dans mon cœur? Ça m'a fait gagner du respect aussi pour ceux qui ont une opinion différente. C'est pas des fous. Ils ont une opinion très différente que je n'arrive pas à légitimiser. Mais je connais des hommes de Dieu qui ont cette perception-là comme évangéliques. Et ce ne sont pas des fous parce qu'ils ont une opinion différente. Il faut que je fasse attention aussi dans la manière dont je l'explique. Et ces hommes m'ont beaucoup béni à m'apprendre l'hébreu et le grec et tous les bienfaits de comprendre la langue et d'apprendre une langue, une deuxième, et d'être capable aussi de mieux comprendre d'autres langues. C'est toute une richesse qu'ils m'ont donnée par le transfert de leur savoir et pour lequel aussi ils ont beaucoup gagné dans mon estime, malgré nos opinions différentes, et d'être capable d'en discuter aussi avec amour et respect. Et donc, on est capable de blaguer de tout ça ensemble. Et des fois, lorsque je vois mon ami en mille, je suis capable de lui dire, écoute, faites-en pas, nous autres, on croit à la grâce de Dieu, puis les prémices sont généreux. Et lorsqu'on va être emporté, vous savez, on va vous tendre la main, les en mille, pour que vous puissiez venir avec nous. Vous voyez le genre d'humour qu'on peut avoir entre nous. Et j'ai plusieurs amis comme ça, là, avec lesquels on peut se taquiner, en rire, parce que ça ne touche pas ici le salut en Jésus-Christ. Et que le salut par la grâce seulement sans aucun mérite, ça ne touche pas la valeur du sacrifice de Jésus-Christ et son identité. Mais on touche à l'interprétation d'un texte quand même important sur comment on voit l'avenir. Et on a un différent là-dessus. Et c'est pourquoi aussi dans l'équipe pastorale, on partage une même perspective comme pasteur ancien ici à l'Église, parce qu'on constate que c'est important quand même. Mais ça ne coupe pas notre relation et notre appréciation pour nos frères et sœurs qui pensent différemment et pour lesquels on ne doit pas regarder avec un œil condescendant. Vous comprenez ici la nuance que je veux faire? Le Seigneur m'a humilié là-dessus, quand il m'a montré des hommes de Dieu qui m'ont instruit, qui m'ont fait du bien, qui pensaient bien différemment. J'ai dû faire comme, oh, OK, ouais, j'ai besoin d'avoir une bonne attitude de respect envers celui qui pense différemment. Vous voyez? Ce n'est pas juste quelqu'un qui est catholique ou quelqu'un qui a vécu il y a 500 ans, c'est un chrétien aussi évangélique de mon époque avec qui je fraternise et que je dois aussi être soucieux de respecter la différence d'opinion, mais de comprendre pourquoi on pense différemment. C'est bon? On continue. Et pour ceux-ci, bien, je continue tout simplement, je vais remettre ceux-là ici à plus tard, qui ne sont pas nécessaires. Quatre événements ici que je vous retenir. Il y a quatre événements, si vous voulez prendre en note, c'est en fait le contenu et c'est les points principaux de ce chapitre. Il y a quatre événements à se rappeler dans l'Apocalypse chapitre 20. Premièrement, Satan qui est lié, c'est ça qu'on va regarder ce matin. Deuxièmement, la première résurrection. Troisièmement, il y a une rébellion finale à la toute fin de cette période de temps-là, nous montrant que même si Satan est lié, les pressions du monde, ma chair, elle, est encore bien là. Et qu'on n'a pas besoin de Satan pour se rebeller contre Dieu. Il va juste venir chercher, à la fin, un recrutement de gens qui ne veulent pas se soumettre au Seigneur, même s'il est sur terre. C'est une réflexion en soi. Et finalement, il y a le jugement dernier du grand trône blanc. C'est quatre sujets que vous retrouvez dans ce chapitre. Si vous n'avez pas le temps de les noter, faites-vous-en pas, ça va revenir dans les titres des prédications du reste de la journée de la semaine prochaine. Et vous pouvez avoir n'importe quand ce document, mes notes, pour aller plus loin à la maison. Ne vous gênez surtout pas. Alors, on regarde ça ici, Satan qui est lié. Jean recommence cette nouvelle section avec l'expression « et je vis ». Encore une fois, il y a une séquence « et je vis une suite ». Après cela, on voit qu'il y a un enchaînement d'événements et il y a aussi un enchaînement, ce qu'on a dit, séquentiel. Parce qu'il y a des événements chronologiques qu'on utilise et qu'on décrit dans le temps qui sont là, qui se suivent un derrière l'autre. Donc, le Seigneur est arrivé maintenant et là, maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1000 ans. Puis après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir au chapitre 21-22 qu'on va regarder? Le nouveau ciel, nouvelle terre. Il y a une suite logique, tout simplement, dans le temps. Et là, ici, on voit un ange qui ne nous est pas identifié avec plus que ça, mais qui a une grande autorité parce qu'on dit qu'il a les clés de l'abîme et qu'il a aussi la capacité de pouvoir enchaîner avec une grande chaîne. Donc, on ne dit pas une grande chaîne pour rien. Le dragon est identifié comme le grand dragon. Une grande chaîne pour l'attacher et il est jeté dans l'abîme. À noter ici qu'il y a une différence faite entre l'abîme, une sorte d'endroit temporaire, avant aussi le feu éternel qui est décrit à la fin du chapitre. Deux distinctions à faire. L'utilisation d'une chaîne pour lier Satan est peut-être un peu suscité chez certaines personnes un peu d'incrédulité. Voyons donc, pourquoi enchaîner le diable? C'est un être spirituel, c'est un ange. Ben oui, je suis conscient comme vous de ce défi-là, je suis bien conscient. Mais si le Seigneur dit qu'il va l'enchaîner, c'est qu'il va l'enchaîner. Et ce qu'il est en train de dire à nous, humains, qui lisons ce texte-là, c'est que ses capacités vont être limitées. En fait, tout comme quand tu es enchaîné dans une prison, tu ne sors pas de la prison, il est arrêté. Son influence arrête, ainsi que ses démons avec lui sont enchaînés et emprisonnés, ne pouvant plus amener une influence du mal. Et donc, ils sont enchaînés, limités, pas juste limités d'accès, complètement arrêtés. C'est ça que ça dit, le fait d'être enchaîné. Leur pouvoir est arrêté. Ça n'enlève pas nos défis avec la chair, ça n'enlève pas non plus le désir de pouvoir et la pression du monde autour de nous. Mais le système du mal, lui, est arrêté ici, contrôlé pendant cette période de temps-là, enchaîné. Et donc, c'est vraiment significatif. C'est intéressant que le langage utilisé ici nous rappelle le langage de cette histoire où Jésus rencontre le Gadarien, je vais le dire tout croche, mais vous vous rappelez cet homme-là qui était enchaîné, qui était incontrôlable de l'autre côté de la mer lorsqu'il va du côté païen de la mer de Galilée et qu'il rencontre cet homme fou qu'on n'arrive même pas à tenir sous les chaînes, n'est-ce pas? Le même langage est utilisé ici pour parler de cet enchaînement. C'est les mêmes mots. Il y a des parallèles très faciles à faire entre les deux, même si c'est deux situations distinctes, d'un enchaînement qui arrive à contrôler un individu. Dans son cas, lui, les chaînes étaient tellement possédés qu'ils n'arrivaient même pas à tenir avec les chaînes, imaginez. Alors, on comprend ici que les chaînes, pour le diable, ce n'est pas juste des vraies chaînes. C'est une image pour nous montrer qu'il est complètement limité et arrêté dans son pouvoir. Et on dit que justement, il va être contrôlé pendant une période de temps. Ensuite, l'ange qui le jette dans l'abîme, ça encore aussi, d'une certaine façon, c'est impossible. Toutes les descriptions qu'on a ici de cet ange nous montrent un être extrêmement fort pour être capable de faire toutes ses actions envers le diable. Et certains ont spéculé que cet ange-là, c'est peut-être l'ange de l'Éternel, pour avoir une autorité avec la clé de l'abîme, être capable de le mettre dedans, de le jeter dedans. Le mot « jeter » est répété 4 fois dans le chapitre pour montrer ici le contrôle absolu et le fait qu'il est vraiment mis dans la fosse, un endroit où il n'a plus de pouvoir, par quelqu'un qui a plus de pouvoir. Et celui-ci est identifié comme le dragon, le grand dragon. Satan est identifié ici comme le serpent antique. Donc, il veut qu'on comprenne, tu sais, celui qui a eu une influence dans Genèse chapitre 3, qui utilise la ruse, le mensonge pour nous faire tomber l'illusion qu'on va devenir des dieux, qui nous amène à douter de ce que Dieu dit, bien, c'est lui, là, ce même-là, Satan ou le diable, utilisé toutes les deux, plus de 70 fois les deux ensemble. Et j'ai mis une autre diapo qui donnera plusieurs références que vous pouvez regarder justement sur l'identité et la description dans le Nouveau Testament. Et l'ange mentionné ici, au verset 1, prend 5 actions, un derrière l'autre. Il s'empare de lui, il va le lier, donc l'attacher, il va le jeter, il va fermer l'entrée, il va la sceller. Le même mot qu'ils vont utiliser pour parler de sceller la pierre lorsque Jésus a été justement enseveli, mis dans un tombeau. On va sceller la pierre de façon à ce qu'on ne peut pas sortir. Et en plus, une 6e action, celui de le délier à la fin de cette période de 1000 ans. Donc, toute l'action est faite qu'il y a un contrôle sur lui de la part de Dieu, par cet ange à qui il donne l'autorité, le contrôle sur lui. Maintenant, ce que je veux m'arrêter ici, c'est de remarquer dans la description qu'on a son but. Regardez avec moi au verset 3. Qu'est-ce qu'il veut faire ici exactement en l'enchaînant, en le limitant comme ça? Le but ou le résultat de cet enchaînement est assez simple. Il est écrit « afin qu'il ne puisse plus égarer les nations ». Soulignez ça. Le but de l'enchaînement, c'est d'empêcher son influence sur les nations. Voilà l'enjeu, le contrôle des nations. Le mot « nation » apparaît, vous savez, 23 fois dans l'Apocalypse. On parle du contrôle du mal sur les gens de toute langue, de toute nation, et il les répète plusieurs fois. Et on remarque que Jésus est le roi des nations aussi. Et il y a ce combat pour qui va contrôler les nations, l'influence politique, les avoir sous sa gouverne. Et lui les séduit pour avoir le contrôle dessus. Et il les égare. Et le mot qui est utilisé là, vous l'avez certainement entendu plusieurs fois le définir, le mot égaré, c'est le mot duquel on a le mot planète. Et on pourrait prendre ce mot-là et le mettre en verbe. Je sais qu'il n'existe pas, mais des fois c'est le fun d'inventer des verbes, des mots, hein? Alors des fois, il y a des mots qui nous manquent. Alors, on pourrait dire ceci tout simplement, il veut faire planéter les gens, littéralement. Qu'est-ce qu'on veut dire là par faire planéter les gens? Si on verbalise ce mot-là, c'est-à-dire de faire tourner en rond, distraire et faire errer les gens comme on regarde un peu les planètes se promener en rond. Un peu comme les enfants d'Israël dans le désert qui ont tourné, qui ont fait de l'errance. Voilà ce qu'il veut faire auprès des nations parce qu'il veut surtout pas qu'ils soient concentrés sur le roi des rois. Il veut les distraire, les faire promener pour éviter de connaître et de se soumettre au roi des rois, de comprendre comment avoir le pardon des péchés, de connaître le Christ ressuscité, de se connaître la paix de se savoir enfant de Dieu une fois pardonné par lui, le chemin pour aller au ciel. Il veut qu'on perde notre temps sur des choses qui ne sont pas prioritaires, qu'on tourne en rond, qu'on gaspille notre vie et qu'on se tourne justement avant de mourir et de dire mais pourquoi j'ai fait tout ça? Puis que je pense à la mort maintenant, quand il est rendu peut-être trop tard. Et que les gens sont là à se poser des questions. Pourquoi l'ennemi veut faire ça? Il veut nous occuper de façon à ne jamais porter attention à l'essentiel. Les humains, pour 1000 ans, seront épargnés de ce planétage-là, de cette distraction, cette séduction-là, cette errance qu'il veut apporter sur toutes les nations. Quoi d'autre dire? Il n'y a aucune question ici sur l'identité. Il est décrit de plusieurs manières pour qu'on comprenne c'est qui. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le dragon, Satan, serpent. Il met des descriptions ici de différents angles. Si tu n'as pas compris, il y a un doute sur ton intelligence. Là. J'utilise tellement d'angles, il faut que tu comprennes c'est qui, ce gars-là. Et c'est différents noms, c'est différentes identités. Et comment il se comporte. Vous savez, il y a de nombreuses références dans le Nouveau Testament. Juste Pierre, Jean et Paul, par exemple, vont chacun l'utiliser à plusieurs occasions. Juste leur écrit de ces trois-là, c'est 22 livres sur 37 du Nouveau Testament par ces trois auteurs-là qui en parlent. Hébreu va en parler aussi. Jean va en parler 12 fois dans son épître. Il va en parler dans son évangile 3 fois. Il va en parler dans l'Apocalypse aussi plusieurs fois. Les écrits du Nouveau Testament sont clairs et on retrouve ces mêmes discussions sur les anges du mal, sur Satan, sur le diable, dans l'Ancien Testament également. C'est un vrai personnage, contrairement à la pensée populaire de notre époque. Et c'est exactement ce que le diable veut, qu'on banalise son identité, qu'on banalise l'enfer, qu'on rit de ceux qui croient dans ces choses-là, qu'on minimise auprès des gens le danger réel d'un ennemi qui est là, pour qu'on ne s'en méfie pas et qu'on se donne dans une fausse sécurité et qu'on ne prenne pas au sérieux la mort, qu'on ne prenne pas au sérieux le combat entre le bien et le mal, qu'on ne prenne pas au sérieux notre destinée éternelle et l'enjeu qui est le péché dans notre vie, banalisé. Ce n'est pas pour rien que vous avez ça comme ambiance autour de vous à l'école, que vous avez ça comme ambiance au travail, qu'on va ridiculiser. C'est ce que l'ennemi veut faire, banaliser. Et ça fonctionne excessivement bien dans le monde nord-américain. Et pourtant, Jésus nous parle bien, et l'Évangile nous parle bien de Satan qui s'est pris de Judas, de Pierre qui est attaqué par le diable. J'ai prié pour toi. Jésus parle plus que n'importe quel auteur du Nouveau Testament dans les Évangiles, parle aux gens à qui il parle sur terre du diable et de son action et de ce combat. Et lui s'est combattu avec. Si Jésus s'est combattu avec, si Jésus en a parlé, si Jésus nous a avertis sur le combat spirituel qu'il y a là et l'enjeu de la destinée éternelle, les amis, on n'a pas à être gênés. Et si on a ri de Jésus, il ne faut pas être surpris qu'on rit de nous et qu'on veuille se débarrasser de nous aussi, qui portons l'Évangile tout comme notre Seigneur. En résumé, Satan est lié après le retour de Jésus du chapitre 19 pour cette tribulation. Le saut à l'extérieur l'empêchera d'avoir tenté toute ouverture pour influencer le monde. Satan est arrêté, emprisonné, sans possibilité de libération conditionnelle pour bonne conduite pendant 1000 ans. Mais qu'en est de ces démons, de l'armée de Satan, qu'on ne mentionne pas nécessairement spécifiquement là ici? Et on peut trouver une réponse dans ce texte de Ésaïe, chapitre 24, qui nous dit ceci, En ces temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, en parlant du futur. Et sur la terre, les rois de la terre, ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, c'est intéressant de voir ici la correspondance prophétique d'Ésaïe qui fit tellement naturellement dans ce qu'on lit ici dans Apocalypse chapitre 20. Ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte. Effectivement, on a lu ça dans l'Apocalypse. Le soleil de confusion. Car l'Éternel des armées règnera sur le mont Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire, de la lourdeur de sa majesté dans le fond, en présence de ses anciens. C'est intéressant. Vous savez, quand on parle de prophétie dans l'Ancien Testament, c'est un peu comme regarder de loin les rocheuses. Vous avez déjà vu les rocheuses? Hein? Quelques-uns ont vu les rocheuses à partir de Edmonton. Moi, j'ai fait le pouce, j'ai traversé le Canada. Un moment donné, quand j'avais 20 ans, j'avais 14 piastres dans mes poches. Puis, j'avais 3 semaines de vacances à la fin de l'été. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. J'ai tout ce qu'il me faut pour 3 semaines de vacances dans l'Ouest canadien. Ça n'a vraiment pas rassuré ma mère quand j'ai fait ça. À cette époque-là, on appelait sur le téléphone public. Puis, au lieu de... Tu sais, on pouvait renverser les charges pour faire un appel à frais virés. Puis là, au lieu de... Je disais... Je suis à tel endroit, puis ça va bien. Bonne nuit. Comme ça, je n'avais pas de frais. Ah, c'était la bonne époque. Hein? C'était merveilleux. Ma mère, elle aimait ça que j'appelle dans ce temps-là, pas à peu près. Et je me rappelle l'impression que m'a fait lorsque je suis arrivé à Calgary, puis de Edmonton aussi, de voir les montagnes au loin. Vous avez un peu une idée? C'est comme un peu, des fois, on voit des images aussi de Mont Everest. On voit surtout un des monts, mais on ne voit pas tout l'ensemble des monts. Et quand tu regardes une série de montagnes comme ça de loin, ce qui arrive, c'est que tu es tellement loin que c'est difficile pour toi d'évaluer quelle montagne est devant quelle à un moment donné. Tu vois la chaîne de montagnes, n'est-ce pas? Mais après ça, l'ordre entre les montagnes est encore moins jugé l'espace entre les montagnes, n'est-ce pas? Tu te trouves à 30, 40 kilomètres, tu les vois, mais c'est impressionnant. Mais l'ordre des choses est difficile à saisir et l'espace entre les montagnes. Et la prophétie biblique est souvent imagée de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on regarde les prophéties de loin qui sont là. On voit les montagnes, il y a des éléments qui sont clairs, des pointes, le Seigneur Jésus revient. On sait qu'il y a un moment de gloire, il y a le paradis, mais entre ces événements-là, c'est difficile à saisir quand on lit certains textes de l'Ancien Testament, où est-ce qu'ils se situent, c'est où les espaces qui s'imbriquent exactement. Et là, on arrive dans le Nouveau Testament, puis c'est comme si on s'était approché de cette chaîne de montagnes, des rocheuses, à mi-chemin. Et là, on voit un petit peu plus de détails à mesure qu'on s'approche. Et là, tout à coup, OK, il y a un millénium ici entre telle montagne prophétique, que je comprenais pas c'est où que ça fitait avant. Vous me suivez? Et Daniel dit ça aussi dans le chapitre 12, que la connaissance va augmenter. À mesure qu'on avance dans le temps, on va comprendre plus de choses que le Seigneur va nous révéler et qu'on va comprendre davantage sur la prophétie. Et Jean nous donne de la part de l'Éternel, le livre d'Apocalypse, qui lui nous a rempli, nous a approché de la montagne à comprendre un peu plus comment s'imbrique la période de temps dans les événements prophétiques clés qui, dans l'Ancien Testament, on avait des informations, mais comment faire le collage exactement, c'était plus flou. Et à mesure qu'on avance, on comprend mieux où se placent les choses. Vous suivez un peu l'image? Pour nous aider un peu à comprendre le fait qu'on avance dans l'accomplissement prophétique. Et donc voilà, j'arrive vers la conclusion et on va réfléchir ensemble comment mettre ça en pratique. Mais une dernière chose à mentionner juste avant, cette idée d'un flashback. C'est-à-dire que certains détracteurs de l'Apocalypse affirment que ce que Jean voit ici n'est pas une vision future, mais plutôt ce qui s'est passé spirituellement au moment de la crucifixion. Donc, c'est plus le Satan qui est lié ici, ce sera une image de ce qui s'est passé à la croix, que quand le Seigneur était victorieux à la croix, Satan a été attaché, et c'est une sorte d'image et de récit qui est plus un flashback comme image de ce qui s'est passé à la croix. Vous suivez l'idée? Oui, non, vous avez le droit de faire comme ça aussi, là. Hein? Ou vous pouvez faire comme ça si vraiment il y a de la confusion. Je ne pensais pas que vous dansiez, Rosie, il est vraiment confus. On va les voir après, OK? C'est pas grave, là. On essaie de juste bien comprendre, de le rendre accessible à tout le monde. Et là, c'est comme difficile. Comment on réconcilie cette idée-là d'un flashback? C'est-tu comparable ce qui s'est passé à la croix et ce qu'on décrit ici sur Satan qui est lié? Ça fait-tu du sens? Et non pour trois raisons, finalement. On lit, et Jean va le dire, et Jésus va le dire, il est le prince de ce monde, présentement. Et ça va être répété aussi par les apôtres dans leurs écrits. qui est actuellement le prince de cette ère. Et là, difficile à dire, le prince de cette ère, quand il est emprisonné, puis qu'il n'est pas supposé avoir aucune influence pendant 1000 ans. C'est bon, tu sais, là, il a enchaîné, puis il a enchaîné. Il y a une grosse chaîne, elle est vraiment longue, là, parce que là, il est rendu en dehors de la prison, puis il est sur un highway, là, je veux dire, ça ne marche plus, là. Okay? Il est prince de ce monde où il ne l'est pas. Il est enchaîné, mais il ne peut pas être les deux. Alors, il y a des problématiques à ce niveau-là dans les paroles que Jésus va identifier son travail dans ce monde. Pas juste ça, Paul va dire, le Dieu de cette ère a aveuglé leur intelligence. En parlant de Satan et de son influence du mal, il aveugle les gens pour comprendre et saisir les vérités de l'Évangile. C'est lui qui passe derrière les semences de la parole, comme dans cette parabole du semeur, et qui veut sortir les semences. Il y a la pression du monde qui étouffe, il y a les doutes, mais il y a l'ennemi aussi qui vient enlever, vous savez, les semences, qui est activement là, puis il dit, il est un entrave dans le fait que les gens saisissent l'Évangile. C'est difficile à pouvoir concilier les deux ensemble, que Satan a été lié quand Jésus était à la croix. Mais il s'est vraiment passé quelque chose, on va y revenir dans un instant. Le prince et la puissance de cette ère, cet esprit qui agit maintenant parmi les fils de la rébellion, c'est Paul qui en parle. Il parle du combat spirituel, d'être dans la prière à la fin de l'épître aux Éphésiens. Il y a un combat bien réel avec le mal qui nous dit d'interagir avec les attaques du mal pour qu'on doute. Et donc, il y a un combat spirituel qui est là. Maintenant, pour le prémil, on comprend ici qu'il est vrai que le Seigneur a gagné la victoire décisive sur Satan à la croix par son sacrifice. Ce n'est pas, par contre, la dernière bataille. La guerre est gagnée par son sacrifice. Mais ce n'est pas la dernière bataille avant que celui-ci se ramasse avec sa sentence pour toujours, qui nous est ici décrite et encore là temporaire pour 1000 ans, parce qu'après ça, il va être jeté dans les temps de feu qu'on va regarder la semaine prochaine plus en détail. Et donc, difficile à accepter cela. Comment atterrir ce matin? Un des textes bien connus pour parler du diable, c'est quand on parle, il est comme un lion rugissant. Et vous savez, il parle de résister. Et quand j'étais en train de dire, comment je termine ce matin, tout ça, parce que c'est bien beau regarder qu'il va être lié un jour, mais il ne l'est pas présentement, qu'est-ce que je fais avec ma réalité, n'est-ce pas? C'est bien beau d'anticiper ce moment-là où il va être attaché. On va être dans un autre état, ça va être beaucoup plus facile, on va revenir avec le Seigneur, on va régner avec lui, on va être récompensé. Mais là, ce n'est pas ça ma réalité. Qu'est-ce que je fais avec cette réalité-là? Et j'aurais pu aller à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais le Seigneur m'a amené à juste lire Pierre. En lisant un peu avant, un peu après, j'ai fait comme, OK, non, c'est clair, Seigneur. C'est ça qu'il faut qu'on lit comme conclusion dimanche. Parce que Pierre nous donne ici l'attitude dans laquelle on doit vivre chaque jour si on est consciencieux qu'il y a un combat spirituel. Quelle sorte d'attitude que j'ai besoin au quotidien? Qu'est-ce qui sont les pièges que je tombe dedans et les vérités que je dois savoir là, présentement là, pour survivre, mais pas juste survivre? Non, non. Le Seigneur ne veut pas juste que tu survives, pour que tu vives victorieusement chaque jour. Comment le faire? Il l'a tout ici. Alors, prenez le temps, j'ai mis 6 points, tout simplement, en lisant un verset, j'ai souligné un point de vérité qui vont apparaître, et je vous invite à les écrire, à y prendre toute attention, parce que voici comment on atterrit ça. Premièrement, mon défi à me soumettre. OK? Il dit, et vous soumettant les uns aux autres, donc il parle d'une soumission mutuelle, puis il dit, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Là, vous dites, ben Joël, tu prends ça hors contexte, là, vous allez voir, il va parler juste après, là, du combat spirituel avec le diable qu'il faut résister. Mais s'il y a un endroit où ce qu'on tombe facilement dedans et qui fait qu'on tombe distrait en Amérique du Nord, là, les amis, là, c'est qu'on a un gros problème de soumission à Dieu et de soumission respectueuse les uns envers les autres. Il faut le dire. On a un gros problème avec ça. On a de la misère à recevoir des autres une parole d'encouragement, de quelque chose qui est reproché. On se place tout de suite sa défensive en réactionnel. Puis on n'est pas en position de... Pourquoi elle me dit ça? C'est-tu vrai? Ça se peut-tu que... C'est quoi mes motifs? Je m'examine parce que je sais, j'ai la capacité de faire ça. Et d'avoir cette humble attitude de soumission les uns envers les autres parce que je me soumets à Dieu en premier. Et que ça vaut la peine de se soumettre à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux. Si je suis orgueilleux, ce que je suis naturellement, Dieu me dit, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Puis, ça, c'est notre lutte continuelle qu'on va avoir dans notre vie. C'est notre orgueil qui a mis un doute sur la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3. C'est notre orgueil qui a été attiré par, on va être intelligent et connaître comme Dieu. Oh, wow! Oh, wow! Mon précieux. C'est pas juste Gouloum, là. C'est cet orgueil. C'est ça. Je veux quelque chose que je désire, puis que je m'embarque dedans, que je deviens finalement, vous savez quoi, omnibulé par ce que je veux, puis cet orgueil, puis ce désir d'avoir. Puis là, tout à coup, j'ai le doute de Dieu. Et peut-être ce matin, la seule chose que vous avez comme encouragement, que Dieu vous dit, hey, mon orgueil. Puis savoir que le prochain point est l'invitation à l'humilité devant Dieu. Un Dieu si grand, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour que lui vous élève. Vous voyez? Et c'est ce qu'a fait Joseph. Il s'est humilié sous la puissante main de Dieu. Il a accepté de vivre comme homme rempli de l'Esprit de Dieu en prison. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a relevé quand c'était le temps. Mais c'est Dieu qui l'a sorti de là, pas lui qui s'est sorti de là. Il s'est asseyé entre-temps quand il a vu une opportunité. Écoute, quand toi tu vas sortir, là, oublie-moi pas. Il l'a oublié 2 ans de temps. Mais il s'en est souvenu 2 ans plus tard. Pourquoi? Parce que Dieu y a rappelé. Parce que là, c'était le temps. Vous voyez? Laissez Dieu nous élever. Nous, on s'élève soi-même. Mais si je crois que j'ai un Dieu bon, que j'ai un papa attentionné, que j'ai un père qui veut le mieux pour moi, je n'ai pas besoin de m'élever. C'est lui qui va s'en occuper pour que quand il va m'élever, ça va être le bon moment que je vais être capable de le gérer. Parce que si moi, je m'élève au mauvais moment, qu'est-ce qui arrive? Et pourquoi il parle de ça? C'est que l'ennemi, là, il joue dans notre insoumission. L'ennemi joue dans notre orgueil, puis il nous joue dans la tête. C'est là qu'il patauge. Mais quand il y a de l'humilité, une dépendance en Dieu, quand que j'écoute les autres, puis je suis à l'écoute du Seigneur, puis je réalise que il faut que je me protège moi-même, je suis orgueilleux, je dois laisser Dieu m'élever quand ça va être le temps, puis que j'accepte ce qui vient comme reproche parce que je suis un pécheur. C'est sûr que je peux faire toutes ces choses-là. Je me protège d'être assailli et contrôlé par le diable. Vous voyez? C'est pas pour rien, là, ces deux attitudes-là. Après ça, il dit, troisièmement, le repos dans le combat existe. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, toutes tes inquiétudes, car lui-même prend soin de vous. Tu n'as pas besoin de te protéger. Tu as juste à prendre ton sac de lourdes inquiétudes, tout ce qui t'écrase, qui t'accable, puis tu peux les donner à lui, puis sache que lui, là, il va s'inquiéter, puis il va se soucier de tes problèmes mieux que toi. Puis lui, il ne fera pas de crise d'angoisse pendant qu'il porte tes inquiétudes. Lui, il ne va pas être écrasé, puis il n'y aura pas de dépression, il n'y aura pas d'arrêt de travail, puis il ne deviendra pas bête quand on lui demande quelque chose parce qu'il est tellement angoissé, parce qu'il vit qu'il n'est plus capable de s'occuper de personne, parce que lui, il a des épaules toutes puissantes, mon papa céleste. Il dit, hey, l'orgueil, sa soumission, hey, règle ça, là. Puis tes soucis, tu n'as pas besoin de les porter, donne-moi-les. Décharge-toi. Peut-être ce matin, c'est ça que le Seigneur veut que tu fasses. Tu as quelque chose qui t'accable, qui te rend vulnérable. Par exemple, il dit, hey, donne-moi ça. T'as pas, je t'ai jamais construit pour que tu portes ça. J'ai toujours voulu être là pour porter ça à ta place. Donne-moi-le, s'il vous plaît. Fais-moi confiance, parce que lui-même prend soin de vous. Vous voyez? Alors, dans le combat spirituel, il dit, trouve le repos dans le combat. Quatrièmement, l'avertissement. Soyez sobre. Et ne soyez pas somnambule, soyez pas anesthésié, soyez pas tout distrait, ce que le monde nous offre. Pourquoi? Restez vigilant, reste comme un gardien sur une tour de guet qui doit voir ce que l'ennemi ne vienne pas en surprise, puis qui est prêt à cogner la cloche pour avertir tout le monde de se préparer. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il y a un vrai combat spirituel. Et là, tout à coup, quand on lit ça, on comprend un peu avant l'aspect de l'orgueil, de se soumettre à Dieu, de lui confier nos inquiétudes, des endroits vulnérables dans lesquels l'ennemi patauge et il veut nous tirer très bas dedans. Soyez sobre. Peut-être c'est ça ton encouragement ce matin. Il dit, hey, t'es distrait de ce temps. Tu penses à tout sauf cette réalité-là. Tu penses à tout sauf tes placements éternels. tu penses plus à tes placements REER qui ont chuté de 24 % là. Puis tu te dis, ouais, c'est pas le temps de prendre ma pension. Hein. Hey, arrête de t'occuper de ces placements-là. Là. Tes placements au ciel, comment ils vont? Tes actions faites par l'Esprit de Dieu, les transformations que l'Esprit fait en toi, te préoccuper des choses d'en haut, d'amener des âmes à Christ, d'avoir un témoignage, comment ça se passe, tout ça? Hey, reste vigilant, reste sobre. T'es-tu distrait dernièrement? T'es-tu partout sauf à l'essentiel? Vigilance, sobriété, gaieté. Seigneur, aide-moi à rester concentré. Je m'emporte d'un bord puis de l'autre, puis de là, le besoin de donner mes soucis. Deux autres éléments terminants. L'impératif. Résister. Il ne dit pas résister avec vos gros pectoraux. Résister avec vos gros muscles. Résister avec votre corps, vos cuisses puissantes. Comme un joueur de football sur la première ligne. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Une foi inébranlable. Pas des cuisses, des bras, des biceps. Non, non. Il n'y a aucun jus de bras là-dedans. Là. C'est toute une foi inébranlable. C'est là que se trouve la force. Et c'est intéressant, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs. Je dis, hey, puis joue pas à victime, là. Hey, dans le monde entier, tu as des frères et des sœurs qui ont besoin de faire le même combat. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas le seul à avoir des épreuves, puis qui trouvent ça dur, puis que des fois, tu te sens tout seul. Puis que là, tu dis, oh, pauvre de moi, puis là, tu tombes dans ton... Oh. Puis là, c'est de l'orgueil caché, évidemment. Là. Pauvre de moi, j'ai pas assez d'attention, puis tu sais, moi, je vis ça, puis je vis ça. Il a dit, hey, résiste. Puis lâche pas de résister. Tu fais honneur à tous les autres qui font la même chose que toi, tes frères et sœurs qui sont dans le monde, parce qu'on a toujours tout fait ça, les croyants. Résister. Puis il y en a plein qui résistent, puis eux autres vont mourir pour résister. Toi, en résistant, on va rire de toi, peut-être. Mais résiste avec une foi inébranlable, une foi qui est ancrée sur le Seigneur Jésus-Christ, une foi qui est ancrée sur un salut qui est par la foi seulement, qui est complété en Jésus-Christ et qu'il n'y a aucune œuvre que tu peux ajouter, mais que tout ce qui en découle, c'est de la reconnaissance. C'est un débordement d'apprécier ce que j'ai reçu sans mérite. Et finalement, consolation, de la perspective dans mon combat spirituel. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle après que vous ayez souffert un peu de temps. Un peu de temps. Hey, on est dans un peu de temps, les amis, là. Pensez-y, là. Vous retournez votre tête et vous réalisez qu'il vient de passer 10 ans, là. C'est dans ce temps-là que tu réalises, c'est vrai. Ça va vite. Ça va vite. Je me rappelle d'être arrivé ici il y a 22 ans. Ma femme était enceinte. En 22 ans, il s'en est passé des choses, hein? Et là, je m'en viens de bord. Hey, c'est vraiment passé 22 ans. Ben voyons donc. Quand il dit un peu de temps, c'est ça qu'il te dit. Ça va vite, les amis. Tu t'en reviens de bord, puis tu réalises que tu es à la fin de ta carrière, puis tu arrives à la retraite. Tu t'en reviens de bord, tu te rends compte que tu es un grand-père, une grand-mère, ou que tu te réveilles devant un grand-père, une grand-mère, un ou l'autre. Ça va vite. Un peu de temps. Et il vous établira lui-même. Il vous affermira. C'est lui qui va faire tout ça. C'est lui qui va récompenser. Et que tout ça ne sera pas en vain. Il faut de la perspective. Il y a un temps où il va vous, après avoir passé ces moments de souffrance-là, c'est normal. Lui va vous mettre bien fort, vous donner un nouveau corps, vous récompenser, vous donner sa présence pour l'éternité et voir que ce petit peu de temps-là difficile, là, c'est rien à côté de ce qu'il vous offre, de ce qu'il veut me donner. Et c'est ça qui fait que je persévère. Puis que je chiale pas, puis je joue pas à victime, parce que tous mes frères et mes sœurs vivent la même chose, mais ils vont pas toujours te le dire, c'est pas toujours écrit dans leur front, hein, qu'il y a un combat spirituel, puis que c'est pas toujours facile, et que je me sens seul. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles, ensemble. Amen. Ainsi soit-il. On va prier ensemble. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher. Prions ensemble avec cette idée-là en tête de ce que le Seigneur nous invite à avoir comme attitude. Allons dans le silence, inviter le Seigneur à parler à nos cœurs. Seigneur, on est tous dans le même bateau. Et Seigneur, on a tous à mener ce combat. On le vit à différentes intensités par nos tempéraments, par les étapes de vie, par les types d'attaques qu'on vit, mais on le vit, Seigneur. Quelle joie de savoir que tu as vaincu l'ennemi, que la victoire nous est accessible. Quelle joie de savoir que l'ennemi va être enchaîné pour 1000 ans, après ça jeté pour toujours. Mais quelle joie aussi de savoir que tu nous donnes les ressources qu'on a de besoin. Là, par l'évangile de Jésus-Christ, ta victoire à la croix nous donne déjà les ressources, Seigneur, dans ce monde actuel, dans notre vie nord-américaine soyeuse et confortable et distrayante, Seigneur. Tu nous donnes ce qu'on a de besoin pour rester vigilant, pour rester là prêt, Seigneur. Est-ce que je suis prêt ce matin? Est-ce que tu me parles dans une de ces 6 sphères, Seigneur, où est-ce que tu veux m'encourager, me fortifier, m'aider à résigner des choses, où est-ce que tu me donnes certains impératifs? C'est quoi tu me dis ce matin à moi, dans mon cœur? Écoutant peut-être en différé, sur place ou en direct à la maison, qu'est-ce que tu me dis, Seigneur, avec cette exhortation de Pierre, avec ces vérités si importantes pour mon quotidien? Où veux-tu me rencontrer, Seigneur, ce matin? Je veux m'approcher de toi, te confesser ce que j'ai à confesser, Seigneur, te supplier pour ton aide là où j'ai besoin de l'aide, te confesser ce que j'ai à te confesser ce matin, peut-être l'orgueil, justement, parce que l'orgueil n'est jamais loin derrière moi. Je lutte tellement avec l'orgueil, Seigneur. C'est pas ma seconde nature, c'est ma première nature. Elle me suit partout. Je me lève avec elle, je me couche avec elle. Mais Seigneur, quand tu prends la place, ça me fait tellement de bien quand je vois que tu me donnes la victoire sur l'orgueil dans une situation au travail. Quand je vois que tu m'as enlevé un mensonge en enlevant le brouillard que l'orgueil me faisait. Quand que je me suis oublié dans quelque chose, j'ai fait quelque chose pour quelqu'un, puis je réalise, hey, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est toi. Et là, mon cœur est encouragé quand je vis ces moments-là de victoire quotidien. Que c'est possible pour moi, Seigneur. Et je veux vivre de plus en plus, des plus grandes portions de ma journée, Seigneur, victorieux sur mon orgueil, à dépendre de ton esprit, à me décharger sur toi, à me libérer de cette angoisse qui me pèse un peu partout. Ah, Seigneur, je veux te confesser ce matin et te demander, prends plus de place. Règne plus dans ma vie. Tu es le roi des rois et je veux vivre sous ton règne maintenant. Règne dans ma vie, s'il vous plaît. Et montre-moi les endroits où, sous ton règne, je vis de l'insoumission. Un domaine que tu veux que je confesse, que j'abandonne. Ou peut-être me montrer, là, dans la prière, un domaine que je ne vois pas pantoute, que tu pourrais me révéler maintenant. Que tu pourrais en dissiper le brouillard. Tu veux-tu le faire, Seigneur, s'il vous plaît? J'ai besoin. J'en ai tellement de besoin. Il y a tellement de bruit autour de moi. Il y a tellement de sollicitations. J'ai besoin de toi pour me concentrer parce que tout autour de moi est là pour me distraire de l'essentiel. Aide-moi, Seigneur. Merci pour ta parole qui m'équipe, qui m'annonce l'avenir. Merci de nous avoir révélé ces choses. On est tellement privilégiés, Seigneur, d'avoir la parole écrite en français, de la lire, de pouvoir la comprendre. Aide-nous à la mettre en pratique le matin. Et nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus.